secret de collection. Buste des ingénieurs civils des mines. Fin 19e siècle, début 20e siècle. Salle 6 siècles d'aventure rouillère. Secret de collection. Operta naturae invenut munera. Ils mettent à jour les œuvres cachées de la nature. Ceci est la devise de la grande dame du cours Foriel. Cette dame, c'est en réalité l'école des mines. Née en 1816 sous le nom d'école des mineurs, elle forme à l'origine les maîtres mineurs. Elle obtient toutefois le statut d'école d'ingénieur en 1831. L'une des vitrines de la salle, 6 siècles d'aventurouillère, présente une série de bustes évoquant le métier des ingénieurs et plus particulièrement 4 personnalités en lien avec Saint-Étienne et son école des mines. Les collections du musée regorgent d'objets techniques, mais elles offrent aussi un regard artistique sur la mine, et ici, les bustes sont un peu le lien entre ces deux thématiques. Un buste se cadre sur la tête, le cou et le haut des épaules d'un individu. Les proportions sont le plus souvent réalistes, on peut dire que l'œuvre est faite à taille humaine. Taillés dans un seul bloc, ici du marbre, les bustes démontrent qu'un artiste, un sculpteur est aussi nécessaire à la réalisation de l'objet. Les détails sont importants et surtout mis en avant. Ils font partie de l'identité de la personne représentée. La moustache, les mèches de cheveux, les vêtements. Le savoir-faire autour du travail des bustes ne déroge pas à la règle de la sculpture minutieuse. Leur caractère mémoriel est aussi important car il souligne l'esprit de ces 4 hommes. Inventeurs, élèves ou professeurs brillants de l'école, tous sources de prestige et de fierté. Ils sont aussi un moteur de motivation pour les élèves qui les contemplent pendant leur formation. Par cet acte de « graver dans le marbre ces ingénieurs », on distingue bien l'importance qu'ils revêtent pour la mine. Si les bustes peuvent être œuvres d'extérieur, ceux-ci étaient sans doute exposés dans l'école, située encore aujourd'hui sur le cours Foriel, ou dans l'hôtel des ingénieurs, bâtiment du centre-ville, situé avenue de la Libération. Mais qui sont-ils? Nous avons d'abord Jean-Baptiste Boussingault, reconnaissable par l'accident au nez que compte sa statue et par la présence de sa Légion d'honneur sur la veste. Il porte d'ailleurs une tenue plutôt élégante, rappelant le statut un peu plus spécifique des ingénieurs et leur qualité de vie. Il est né à Paris et arrive à Saint-Étienne en décembre 1818 pour intégrer l'école des mines. Il y rencontrera d'ailleurs Benoît Fournéron. Le directeur de l'école, Louis-Antoine Bonnier, fait confiance aux capacités du jeune homme et l'intègre à la deuxième promotion de l'école. Il sera d'ailleurs classé hors concours et obtient son brevet en 1820. Vient ensuite Louis Gruner, présenté dans une tenue élégante, une veste, de laquelle on voit apparaître un nœud papillon à son cou. On l'identifie par son regard sérieux, son collier de barbe, mais aussi son âge plutôt avancé, représenté là en guise de sagesse. Il est né en 1803 et est ingénieur et enseignant à l'école en 1835. Il étudie le sous-sol stéphanois et cartographie le bassin minier s'étendant de Rive-de-Gier à Firminy. Il sera d'ailleurs directeur de l'école de 1852 à 1858. Se présente également Jean-Baptiste Marceau, que l'on reconnaît assez facilement par sa moustache fournie, ses cheveux plutôt courts, et lui aussi porte une tenue élégante. Il est élève à l'école des mines et sort major de sa promotion en 1852. Son nom est associé à la lampe de sûreté des mineurs, car il est à l'origine de l'ajout d'une cuirasse autour de la toile métallique du dessus, évitant ainsi les courants d'air à l'intérieur et protégeant la flamme, cela rend la lampe plus sûre. Cette lampe sera d'ailleurs utilisée partout en Europe. Enfin, Benoît Fournéron, que l'on reconnaît par sa chevelure bouclée, son collier de barbe et le fait que son buste n'est pas le détail des vêtements. Il est le fils d'un géomètre stéphanois et fait partie de la première promotion d'élèves. Il est d'ailleurs admis avant l'âge légal de 15 ans, car il présente des capacités exceptionnelles. Il sera d'ailleurs capable de remplacer occasionnellement son professeur de mathématiques et d'amener avec lui parfois ses camarades lorsque son père géomètre lui demandera des plans de mine. Il étudie le tracé du chemin de fer, permet la production de fer blanc, alors monopole anglais, et surtout invente la turbine hydraulique en 1832, dont le principe est de produire de l'énergie à partir de l'eau en mouvement. Tous ces ingénieurs sont encore aujourd'hui largement célébrés dans le monde de l'ingénierie et surtout dans l'histoire de l'industrie.